Vous êtes sur RTL.
Occasiondelyon.com.
RTL Matin.
Yves Calvi.
7h44, très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le président du comité consultatif national d'éthique, Jean-François Delfraissy.
Bonjour professeur Delfraissy. Je rappelle que vous êtes avant tout un grand professeur d'immunologie, pionnier dans la lutte contre le sida et le virus Ebola. On devient spécialiste de bioéthique ou en tant que médecin c'est naturel ?
Non, je suis fondamentalement médecin. J'étais un peu étonné qu'on me nomme au comité consultatif national d'éthique. Et en tout cas, je suis pour qu'il n'y ait pas de bioéthicien professionnel. Parce que la bioéthique doit évoluer et donc la construction de la bioéthique, elle doit venir de différentes disciplines.
Alors professeur, c'est à partir d'aujourd'hui que le Sénat examine la loi sur la bioéthique dont, je le disais, l'une des mesures phares concerne la PMA pour toutes les femmes, procréation médicale assistée. La loi a déjà été approuvée par l'Assemblée et le Sénat, en commission, a apporté des modifications, notamment sur le remboursement par la Sécurité sociale. Les sénateurs pensent que la PMA pour toutes doit être remboursée sur critères médical. En gros, ils pensent qu'on rembourse ceux qui se soignent, pas ce qui est de confort. Est-ce que vous comprenez ce positionnement ?
Alors attention, parce que c'est la commission spéciale du Sénat. Ça va être discuté au Sénat et on ne sait pas ce qui va sortir du Sénat lui-même. Sur le remboursement, le comité d'éthique, dans l'avis 129, ce qu'on avait envisagé pour la loi, on avait laissé la porte ouverte. Mais globalement, nous étions plutôt pour un remboursement. Pourquoi ? Parce que ne pas rembourser, c'est créer aussi une certaine forme d'inéquité. Nous sommes dans un monde français qui est ce qu'il est autour de la santé, où il y a un phénomène de répartition et de prise en charge plus globale. À partir du moment où on accepte et où on va vers une ouverture de l'AMP pour les femmes seules et les couples de femmes, il est assez logique de ne pas uniquement avoir cette disposition pour les plus riches.
Donc, faut pas dire dans un cas on soigne une infertilité et dans l'autre cas on compense une impossibilité. Ça, pour vous, d'un point de vue éthique, c'est pas possible de le dire.
C'est un débat un peu à côté. C'est-à-dire, est-ce que, on va le dire autrement, est-ce que la médecine est faite uniquement pour soigner ou est-ce qu'elle est faite également pour, à partir de aspects techniques, apporter finalement des réponses à des demandes qui ne sont pas d'ordre strictement médical. C'est une vraie grande question. Et la réponse, à mes yeux, à partir du moment où il y a souffrance, et c'était le cas, et on peut imaginer que c'est le cas pour un certain nombre de femmes seules et de couples de femmes, il est logique qu'à partir du moment, au nom de quel grand principe éthique, refuserait-on à ces femmes d'avoir accès un certain nombre de techniques biomédicales.
Professeur Jean-François Delfraissy, il y a une question à laquelle la loi ne répond pas. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'ouvrir un droit qu'on ne pourra pas satisfaire ? Parce que la demande va être très importante. Le journal La Croix a mené une enquête, un afflux de demandes de 2,5 à 3 fois plus. À votre place, en septembre dernier, il y avait le professeur Greenberg, spécialiste de la reproduction, qui a alerté le gouvernement en disant qu'il y a déjà une pénurie de sperme pour les couples hétéros. Alors, pour les couples de femmes homo, ça va être pire.
Oui, c'est une vraie question. Et on n'a pas la réponse actuellement. Le nombre de donneurs risque d'être insuffisant dans un premier temps. C'est ce qui s'est passé, parce qu'on a de l'expérience qui s'est passée ailleurs. La France arrive finalement assez en retard dans ce sujet. C'est ce qui s'est passé en Angleterre, c'est ce qui s'est passé en Hollande. On a vu à propos de ça et du fait de la levée de l'anonymat du don de sperme, on a vu une chute du nombre de donneurs. Et puis ensuite, il faut que ça soit une politique d'État, c'est-à-dire qu'il y ait une vraie stratégie, comme il y a autour, par exemple, des messages autour de la transplantation. Il faut qu'il y ait un certain nombre de messages d'État autour du don, et on reverra, si on s'en donne les moyens, remonter le nombre de dons.
Est-ce que la loi n'aurait pas dû envisager de dédommager les donneurs, comme ça se fait à l'étranger ?
On est dans on touche à un grand principe de la bioéthique, je dirais, à la française, qui est la gratuité du don, à la fois dans le don d'organes, dans le don de sperme. On est sur la notion de gratuité du don. Avoir envisagé, je dirais, d'avoir une rétribution va faire qu'on va sélectionner d'une autre façon les donneurs, parce que on peut imaginer que les gens, pour des sommes qui sont pas considérables mais qui existent, viennent donner. Donc On reste dans un principe à la française sur la gratuité du don, moi, auquel je tiens beaucoup pour la transplantation, et qui permet donc de laisser ouvert, entre guillemets. On aura une chute du nombre de donneurs dans un premier temps, c'est à peu près certain. Il faut que l'État se donne les moyens, et en particulier au niveau du ministère de la Santé, d'avoir les campagnes adéquates pour expliquer et faire remonter le nombre de donneurs.
Professeur Jean-François Delfraissy, il y a un autre point qui fait débat entre le Sénat et l'Assemblée, et d'ailleurs au sein même du Sénat, c'est l'accès aux origines, avec la décision de lever partielle de l'anonymat sur les dons. Alors, les députés et les sénateurs sont d'accord pour que des informations comme l'âge, le métier, le pays de naissance, la couleur des yeux soient publiées. Mais en revanche, sur l'identité du donneur, les sénateurs veulent que le donneur ait le choix, en fait, de donner son consentement. Ça veut dire que est-ce qu'on risque de se trouver avec des enfants qui ont accès à leur origine et d'autres qui n'ont pas accès à leur origine, si cette disposition est votée ?
Alors, l'accès aux origines, c'est une des grandes questions qui est sortie des états généraux de la bioéthique. Personne n'aurait imaginé que ça sorte avec une acuité de ce type. Ça pose la question des grands enjeux de bioéthique qui sont le besoin individuel par rapport à une vision plus collective. Arrive derrière ça les nouvelles technologies avec la capacité de séquençage que nous avons et donc de repérer éventuellement les donneurs et puis les big data qui permettent d'aller repérer. Ce qui fait que on peut repérer finalement des demi-frères ou des demi-sœurs avec les nouvelles techniques. Donc la loi ouvre et c'est une très bonne chose. Si elle ouvre, il faut ouvrir. C'est-à-dire, on va pas rentrer avec un double guichet. Hein. J'ai bien conscience, elle n'ouvre pas en rétrospective. Les donneurs qui ont donné pourront ou pas accepter de donner leur identité. En prospective, à partir du moment où la loi sera effective, les donneurs connaîtront ce qui les attend, entre guillemets, et c'est assez logique. D'avoir cette attitude unique. Un double guichet qui consisterait à avoir uniquement des données non informatives et ensuite à entendre encore l'avis des donneurs ne serait pas raisonnable.
D'accord. Certains au Sénat sont vent debout la transcription des enfants nés par GPA. Ça, c'est la gestation pour autrui ou, pour le dire autrement, les mères porteuses. Donc, la reconnaissance à l'état civil des enfants nés par mères porteuses. Certains sénateurs refusent parce qu'à leurs yeux, ça reviendrait à mettre un pied dans la GPA, sauf qu'il y a une jurisprudence. Donc, on pose un faux problème, là, au Sénat ?
Alors, la GPA, je pense qu'il y a un relatif consensus pour que la France et que la loi de bioéthique n'ouvre pas sur la GPA. Et au nom de quel principe ? Au nom du principe de la non-marchandisation du corps de la femme.
Bon. Mais vous, professeur Delfraissy, catholique pratiquant, vous avez changé d'avis sur la GPA ?
Non, je n'ai pas changé d'avis sur la GPA. J'ai toujours été contre la GPA parce que j'ai vu la marchandisation du corps. J'ai beaucoup travaillé au Cambodge et j'ai vu des fermes à GPA.
Des fermes ?
C'est-à-dire des endroits où il y a des jeunes filles qui sont vendues pour une période de 2 ou 3 ans pour donner leur corps et porter des grossesses. Et quand vous avez vu ça, vous êtes quand même troublé, quelle que soit votre ouverture. J'ai une ouverture très générale et je peux comprendre le besoin d'enfants qu'il peut y avoir, y compris chez les couples homo. Mais donc, premièrement, le principe. Deuxièmement, il y a des enfants qui naissent par GPA à l'étranger. Enfin, je dirais, l'ouverture, l'humanité fait que ces enfants n'y sont pour rien.
Ben c'est donc, ils ne sont pas suspendus dans l'air comme ça.
Et on ne va pas les laisser suspendus au milieu de nulle part. Donc, il est assez logique, et d'ailleurs, la Cour européenne nous le demande en France, et il y a une série de décisions de justice, pour essayer de légiférer pour que finalement ces enfants aient un statut juridique. On distingue bien ce qui est un non à la GPA de ce qui est une validation juridique de ces enfants nés à l'étranger.
Rapidement, je suis désolée, professeur Delfraissy, il y a une disposition sur laquelle les sénateurs sont allés plus loin que l'Assemblée. C'est ce qu'on appelle le dépistage anténatal. Quand on implante un embryon, on a le droit de rechercher des maladies graves, par exemple la myopathie. On n'a pas le droit, en revanche, de faire une analyse chromosomique pour rechercher, par exemple, une trisomie. Et là, les sénateurs disent « Ok, allons-y à titre expérimental ». Ça, c'est une bonne nouvelle pour vous ?
Oui, je considère que c'est une bonne nouvelle. Je considère que ce qu'avaient voté les députés était insuffisant. Ce n'est pas moi qui le considère, c'est l'ensemble des praticiens spécialistes du domaine où on peut repérer des anomalies chromosomiques. Le test n'est pas fiable à 100%, mais il est quand même très solide. Et ça permet d'éviter quoi ? Ça permet d'éviter de lancer des fécondations in vitro avec des embryons dont on sait qu'ils ont peu de chances et finalement de s'implanter. Et rappelons que la fécondation in vitro, qui est considérée comme un succès magnifique, a un taux de succès global qui ne dépasse pas 17 à 18%, d'où l'importance des recherches qu'il doit y avoir sur le sujet.
Merci beaucoup, professeur Delfraissy. Je vous aurais bien gardé encore un quart d'heure de plus.
Nous sommes bien d'accord.
Pour parler d'intelligence artificielle, etc. Mais on y reviendra une prochaine fois.
Je ne retiendrai du coup que quasiment la première intervention du professeur Delfraissy dans cette interview. La bioéthique doit évoluer comme la médecine, bien entendu. L'intégralité de l'entretien est à retrouver.